Ma vie d'enfant, chapitre 9. Je me fais assez l'effet d'avoir été dans mon enfance comme une de ces ruches où des gens sans culture ni prétention apportaient le miel de leur expérience et de leur connaissance de la vie, enrichissant mon âme avec générosité selon leurs moyens. Souvent ce miel était impur et amer. Néanmoins, la connaissance est toujours un butin. Après le départ de Bonne Affaire, ce fut l'oncle Piotr qui se lia avec moi. Il était aussi propre, aussi sec et aussi soigneux que grand-père, auquel il ressemblait d'ailleurs, bien que plus faible et de moindre proportion. On eût dit un adolescent qui, pour s'amuser, aurait endossé les vêtements d'un vieillard. Il avait un visage ridé, strié, un peu comme une grille, avec de minces replis de chair, entre lesquels sautillaient, pareils à des serins dans une cage, des yeux amusants et vifs, à la cornée jaunâtre. Ses cheveux gris étaient longs et bouclés, et sa barbe s'enroulait en anneaux. Il fumait la pipe, et la fumée du tabac, du même ton que ses cheveux, s'élevait de sa bouche en volutes blanchâtres. Il avait une façon très particulière de s'exprimer en phrases entortillées, et sa voix bourdonnante paraissait amicale. Mais il me semblait toujours que cet homme se moquait de tout le monde. « Lorsque j'étais petit, racontait-il, la comtesse Tatiana Alexievna, à qui j'appartenais, m'a ordonné « Tu seras forgeron ». Quelque temps après, elle a changé d'avis. « Tu aideras le jardinier. » C'est bon, je fus jardinier. Mais on a beau faire, les gens ne sont jamais contents. Plus tard, elle m'a dit « Piotr, tu iras pêcher. » Cela m'était bien égal, j'allais donc pêcher. À peine avais-je pris goût à ce travail-là qu'il a fallu dire adieu aux poissons. Elle m'envoie en ville, comme cocher de fiacre. Quitte à lui payer une redevance en argent, il faut faire le cocher ? Très bien. « Et après, madame ?»« Mais nous n'avons plus eu le temps de changer, ma comtesse et moi, car on a affranchi les serres. Je suis donc restée avec mon cheval. C'est lui qui remplace ma maîtresse. » Son cheval était très vieux. On eût dit qu'il avait été blanc jadis, et qu'un peintre ivre s'était amusé à le barbouiller de différentes couleurs, mais n'avait pas eu le loisir d'achever sa besogne. La bête avait les genoux cagneux, et sa tête osseuse, aux yeux troubles, pendait, tristement, rattachée au poitrail par des veines gonflées et un peu de vieille peau élimée. L'oncle Piotr traitait avec respect l'animal qui évoquait un assemblage de guenilles disparates. Il ne le battait jamais et l'appelait Tanka. Grand-père lui demanda un jour, « Pourquoi as-tu donné à cette bête un nom chrétien ?»
« Moi, monsieur ? Mais pas du tout. Tanka n'est pas un nom chrétien. C'est Tatiana qui est un nom chrétien. »
L'oncle Piotr, lui aussi, avait fréquenté l'école. Très versé dans les saintes écritures, il discutait souvent avec mon aïeul, et leurs controverses portaient sur le point de savoir lequel des saints était le plus saint. Les deux hommes condamnaient à l'envi les pêcheurs de l'Antiquité, Absalom surtout. Mais parfois, leur débat prenait un caractère violent. « Laisse-nous, Alexis !» criait alors grand-père furieux, et ses yeux verts lançaient des éclairs. Piotr aimait beaucoup l'ordre et la propreté. Quand il traversait la cour, il ne manquait pas de repousser du pied les os, les copeaux et les tessons qui traînaient, en murmurant à leur adresse « Tu es inutile et tu gênes !» Il était loquace et semblait bon et joyeux. Mais parfois, ses yeux s'injectaient de sang, se brouillaient et s'immobilisaient comme ceux d'un mort. Il s'asseyait alors, n'importe où, dans un recoin obscur, pelotonné sur lui-même, sombre et muet. « Qu'est-ce que tu as, oncle Piotr ? » « Va-t'en » répondait-il d'une voix sourde et sévère. Dans une des maisonnettes de notre rue, habitait un monsieur affligé d'une loupe sur le front. Cet être avait une habitude pour le moins bizarre.
Le dimanche, il s'asseyait à sa fenêtre et tirait de la grenaille sur les chiens, les chats, les poules, les corbeaux, et aussi sur les passants dont le visage ne lui plaisait pas. C'est ainsi qu'une fois, il farcit de petits plombs la hanche de Bonne Affaire. La grenaille, heureusement, n'avait pu traverser la veste de cuir, mais quelques petits grains avaient roulé dans la poche de notre pensionnaire, et je me rappelle avec quelle attention il les examina à travers ses lunettes. Grand-père lui conseilla de porter plainte, mais il répondit en jetant les petites perles grises dans un coin de la cuisine. « Cela n'en vaut pas la peine !» Une autre fois, le tireur envoya quelques plombs dans la jambe de mon aïeul, qui se fâcha, se rendit chez le juge de paix et se mit en quête de rassembler les autres victimes ainsi que des témoins. Mais l'individu disparut brusquement. Chaque fois que les détonations retentissaient dans la rue, l'oncle Piotr, s'il était à la maison, se hâtait de couvrir ses cheveux gris de sa vieille casquette des dimanches qui avait une immense visière, et il sortait aussitôt, traversant la cour à grandes enjambées. Les mains cachées derrière le dos, sous son cafetan qu'il soulevait comme une queue de cobe, le ventre bombé, il passait posément sur le trottoir, devant le tireur, puis rebroussait chemin et recommençait ce manège. Tout le monde, chez nous, se tenait au portail. À la fenêtre, apparaissait le visage bleu du militaire, et au-dessus, la tête blonde de sa femme. De la cour des Bêtes-Langues, les locataires sortaient aussi. Seule la maison Ovsianikov, grise et morte, ne montrait personne. Parfois, l'oncle Piotr se promenait sans succès. Le chasseur ne le considérait probablement pas comme un gibier digne d'un coup de fusil. Mais tout à coup, deux crépitements successifs se faisaient entendre. « Bouc ! Bouc !» Sans hâter le pas, l'oncle Piotr revenait vers nous et s'écriait d'un air satisfait « Il a tapé dans le pan de ma veste !» Une fois cependant, la grenaille l'atteignit au cou et à l'épaule. Grand-mère se mit en devoir de lui extraire avec une aiguille les grains qui avaient pénétré sous la peau, et ce faisant, elle le morigénait. « Pourquoi l'excites-tu ainsi, ce sauvage ? Il finira bien par te crever les yeux !»
« mais non, Akulina Ivanovna !» répétait Piotr d'une voix traînante et dédaigneuse.
« Ce n'est pas un tireur, cela !»«
Et pourquoi fais-tu le fou avec lui ?»«
Moi, je fais le fou ? Pas du tout. Ce que je fais, c'est simplement histoire de le taquiner, ce monsieur !»
Et tout en regardant les grains de plomb extraits de ses habits et qu'il tenait dans le creux de sa main, il continua.
Non, ce n'est pas un tireur. La comtesse Tatiana Alexievna a eu un certain temps en qualité de mari, car elle changeait de mari comme de valet de chambre. Elle eut, dis-je, un militaire qui s'appelait Mamont Ilitch. Voilà quelqu'un qui savait tirer. Et jamais autrement qu'à balle, grand-mère. Il faisait placer Ignashka, le bouffon, à 40 pas de lui environ, après lui avoir attaché à la ceinture une bouteille qui pendait entre les jambes écartées. Le bouffon riait. Mamont Ilitch pressait sur la détente et, pan, la bouteille volait en éclats. Seulement, un jour, Ignashka a bougé. Peut-être un moustique le piquait-il, et la balle lui est entrée dans le genou en lui fracassant la rotule. On a appelé le médecin, qui a tout de suite coupé la jambe, qu'on a enterrée.
Pauvre bouffon!
Lui, il s'en est bien tiré. Les idiots n'ont besoin ni de bras ni de jambes. Leur stupidité suffit à les nourrir. Tout le monde les aime, car la bêtise est inoffensive. On le dit d'ailleurs. Le diacre ni le greffier ne sont dangereux s'ils sont bêtes.
Piotr me traitait avec gentillesse. Il me parlait d'une manière plus simple qu'aux grandes personnes, sans me cacher ses yeux, et malgré tout, il y avait cependant en lui quelque chose qui me déplaisait. Quand il offrait sa confiture préférée, il en mettait une couche plus épaisse sur la tranche de pain qu'il me destinait. Il me rapportait de la ville des pastilles de réglisse,
des gâteaux de graines de pavot, et m'interrogeait d'un ton sérieux et confidentiel. « Que ferons-nous plus tard, mon petit monsieur? Seras-tu soldat ou fonctionnaire ?»«
Soldat !»«
C'est très bien. Maintenant, le métier n'est plus très dur. D'ailleurs, il est encore moins pour les popes qui n'ont, eux, qu'à crier de temps en temps. « Seigneur, aie pitié de nous !» Et c'est tout. Mais la profession la plus agréable, c'est encore la pêche, car le pêcheur n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit, pourvu qu'il ait l'habitude. Et il me montrait, avec des gestes amusants, comment les poissons tournaient autour de l'appât, comment les perches, les mulets, se débattaient quand ils avaient mordu à l'hameçon.
« Tu te fâches lorsque ton grand-père te fouette, » disait-il à d'autres moments.
« Tu as tort. On ne te fouette que pour ton bien, et ce n'est pas très douloureux. » C'était ma maîtresse, Tatiana Alexievna, qui savait vous faire fouetter. Elle entretenait même à cet effet un homme qui ne s'occupait que de cela. Il s'appelait Christophore, et était si réputé que les propriétaires des domaines voisins demandaient parfois à ma comtesse « Tatiana Alexievna, prêtez-moi donc votre Christophore pour fouetter la valetaille. » Et elle accédait volontiers à ce désir. Il racontait avec beaucoup de détails, mais sans ressentiment, la façon dont la comtesse, vêtue d'une robe de mousseline blanche et la tête couverte d'un vaporeux fichu bleu ciel, s'installait dans un fauteuil rouge sur le perron à colonnade pour regarder Christophore fouetter les cerfs et les paysannes. Bien qu'il fût originaire de Riazan, ce Christophore ressemblait à un tzigane ou à un petit Russien, des moustaches jusqu'aux oreilles, le menton rasé et un museau bleuâtre. Je ne sais pas s'il était vraiment idiot ou s'il faisait semblant de l'être pour qu'on le laissât tranquille. Parfois, à la cuisine, il versait de l'eau dans un bol, attrapait une mouche, une blatte ou un scarabée et s'amusait à les noyer en les enfonçant dans l'eau avec un petit brin d'osier. Je connaissais déjà quantité d'histoires de ce genre que m'avaient racontées mes grands-parents. Quoiqu'elles fussent différentes, elles se ressemblaient étrangement. Dans chacune d'elles, on tourmentait quelqu'un, on se moquait d'un cerf et on le persécutait. Ces anecdotes m'ennuyaient. Je ne voulais plus les entendre et je demandais au charretier « Parle-moi d'autre chose !» Ses rides s'abaissaient vers la bouche, puis se relevaient vers le nez et Piotr acquiesçait. « C'est bon, petit malcontent. En voici une autre. Nous avions un cuisinier. Chez qui ? Chez la comtesse Tatiana Alexievna. Il y avait donc un cuisinier. Ha ! Ça, c'est une histoire amusante. L'amusant consistait en ceci que le cuisinier, n'ayant pas réussi un pâté de poisson, avait été obligé de le manger tout entier en une seule fois. Il en était naturellement tombé malade. Je me fâchais. Ce n'est pas drôle du tout.
Qu'est-ce qui est drôle alors? Dis-moi.
Je ne sais pas. Dans ce cas, tu ferais mieux de te taire. Quelquefois, le dimanche ou les jours de fête, mes cousins venaient en visite. Sacha, mélancolique et paresseux, et Saka, correct, minutieux et au courant de tout. Un jour, en voyageant tous trois sur les toits, nous aperçûmes dans la cour des Bettlang un monsieur chauve en habit vert doublé de fourrure. Assis sur une pile de bois entassée contre le mur, il jouait avec des petits chiens. L'un de mes cousins fit la proposition, acceptée d'emblée, de voler un chien, et aussitôt un plan très ingénieux fut arrêté. Mes cousins allaient immédiatement se rendre dans la rue, devant le portail des Bettlang. Moi, je ferais peur au monsieur qui se sauverait. Et Sacha et Saka, profitant de ce désarroi, se rueraient dans la cour et s'empareraient de l'un des animaux.
Comment faut-il faire pour l'effrayer ?
L'un de mes cousins proposa
« Crache-lui sur la tête !»
Est-ce un si grand péché que de cracher sur le crâne de quelqu'un ? J'avais pu juger qu'il existe bien d'autres manières de causer du tort à son prochain.
Aussi, je n'hésitais guère à exécuter honnêtement la mission dont je m'étais chargée. Cela souleva un beau tapage et fit un vrai scandale. Toute une armée d'hommes et de femmes, conduite par un jeune et bel officier, sortit de la maison Bettlang et pénétra dans notre cour. Et, comme, au moment du crime, mes cousins se promenaient tranquillement dans la rue, sans rien savoir, semblait-il, de mon horrible forfait, grand-père ne fouetta que moi, et satisfit ainsi tous les locataires de la maison voisine. Les membres endoloris, j'étais couché dans la soupente, à la cuisine, lorsque l'oncle Piotr, vêtu de ses habits du dimanche, grimpa vers moi, l'air joyeux. « Tu as eu une riche idée, mon petit ami, » me chuchota-t-il, « de cracher sur ce vieux bouc. Mais c'est des cailloux qu'il faudrait lancer sur sa caboche pourrie. » Je revoyais le visage rond, glabre et enfantin du monsieur. Je me rappelais qu'il avait glapi tout doucement, plaintivement, comme les petits chiens, en essuyant son crâne chauve avec ses petites mains jaunes. J'éprouvais une honte insupportable. Je haïssais mes cousins. Mais j'oubliais tout lorsque je vis le vieux charretier, dont le visage ridé avait un aspect aussi effrayant et aussi repoussant que celui de grand-père pendant qu'il me fustigeait. « Va-t'en » hurlai-je en repoussant Piotr des pieds et des mains. Il se mit à ricaner, cligna de l'œil et s'éloigna. Depuis lors, je perdis toute envie de converser avec lui. Je l'évitais même, mais en même temps, je me mis à le surveiller, comme si je me fusse attendu vaguement à quelque chose. Bientôt après cette aventure, il en arriva une autre. Depuis fort longtemps, la paisible maison Ovsianikov me préoccupait. Cette demeure aux murs gris me semblait mystérieuse, comme certains castels des contes de fées. Chez les Bettlang, on vivait bruyamment, gaiement. Quantité de belles dames habitaient là. Des officiers et des étudiants venaient leur rendre visite. On riait, on criait, on chantait, on faisait de la musique. La façade de la maison elle-même était joyeuse. Les vitres des fenêtres étincelaient, et on distinguait nettement le feuillage des plantes fleuries placées près des croisées. Grand-père n'aimait pas cette maison. Les visiteurs, pour lui, n'étaient que des hérétiques et des impies. Et quant aux belles dames, il les qualifiait d'un vilain nom dont l'oncle Piotr m'avait certains jours expliqué le sens. La demeure silencieuse et sévère des Ovsianikov inspirait du respect à mon aïeul. Cette habitation, très élevée, quoiqu'elle n'eût qu'un étage, s'érigeait au fond d'une cour gazonnée, propre et vide. Au milieu, sous un toit supporté par deux colonnettes, se trouvait un puits. La maison semblait s'être retirée en arrière de la rue, comme pour se dissimuler au regard. Ses trois fenêtres, étroites et cintrées, s'ouvraient très haut au-dessus du sol, et le soleil revêtait leurs vitres troubles de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. De l'autre côté du portail s'élevait une dépendance, d'aspect absolument identique à la demeure principale, mais dont les trois fenêtres étaient seulement simulées au moyen de cadres cloués au mur et dont on avait peint les traverses en blanc. Ces fenêtres aveugles offraient un aspect déplaisant, et la dépendance tout entière accentuait encore le caractère mystérieux et dissimulé de la maison. Il y avait quelque chose de paisible et d'humilié, ou de fier, dans cette propriété aux écuries vides, dont les remises aux grandes portes étaient vides également. Parfois, un vieillard de haute taille, aux joues glabres, aux moustaches blanches et dont les poils se raidissaient comme des aiguilles, se promenait dans la cour en boitillant. Un autre vieillard, qui avait des favoris et un nez tordu, faisait de temps à autre sortir de l'écurie un cheval gris, aux jambes fines et longues, à la poitrine étroite, qui avait l'air de saluer de tous côtés en arrivant dans la cour. Le boiteux lui donnait, sur la croupe et sur le garrot, des tapes sonores, sifflait, soufflait bruyamment,
puis on rentrait de nouveau la bête à l'écurie. Et j'avais l'impression que le vieillard aurait voulu sortir, se promener, mais qu'il ne pouvait pas le faire, parce qu'il était ensorcelé. Presque tous les jours, de midi jusqu'à la tombée de la nuit, trois petits garçons jouaient dans la cour. Vêtus tous trois du même costume sombre et coiffés de petits chapeaux exactement pareils, ils avaient la figure ronde et les yeux gris, et se ressemblaient à un tel point que je ne les distinguais d'abord que par leur taille. Je les regardais par une fente de la clôture, mais eux ne me remarquaient pas, et cela m'ennuyait fort. J'aimais aller voir jouer gentiment, gaiement, à des jeux que j'ignorais. Leur costume me plaisait, mais ce qui me ravissait, c'était la sollicitude qu'ils se témoignaient réciproquement. Le cadet, surtout, petit bonhomme vif et amusant, était l'objet de l'attention des deux aînés. S'il tombait, les autres riaient, car on rit toujours quand quelqu'un tombe. Mais leur rire n'avait rien de malveillant. Ils aidaient leurs frères à se relever, et s'ils s'étaient salis les mains ou les genoux, tous deux essuyaient doigts et culottes avec des feuilles de fenouil ou avec leurs mouchoirs. « Que tu es amusant !» disait seulement d'une voix placide et zézéante le second. Jamais ils ne se querellaient, jamais ils ne se faisaient de niche, et ils étaient tous trois très adroits, robustes et infatigables. Un jour, je grimpais à un arbre et je sifflais pour attirer leur attention. Ils s'arrêtèrent net, puis, s'étant réunis, se mirent à discuter à mi-voix en me regardant de temps à autre. Je pensais qu'ils allaient me lancer des pierres, et je descendis de mon perchoir, pour y remonter bientôt, mes poches et ma blouse bourrées de cailloux. Mais les enfants étaient loin. Ils jouaient dans un autre coin de la cour, et m'avaient déjà oublié. C'était triste. Je ne voulais pourtant pas commencer moi-même les hostilités. Mais bientôt un vasistas s'ouvrit, et quelqu'un leur cria « Rentrez, enfants !» Ils s'en allèrent docilement, sans se presser, comme des canards. Bien des fois, je me hissais sur l'arbre dominant la clôture, dans l'espoir qu'ils m'appelleraient pour jouer avec eux. Mais ils n'en faisaient rien. En pensée pourtant, je participais déjà à leur jeu, et je m'y intéressais au point de pousser de temps à autre un cri ou un éclat de rire. Ils me regardaient alors, tous trois, et chuchotaient entre eux, tandis que je me laissais glisser à terre, gauche et embarrassée. Certains jours, ils commencèrent une partie de cache-cache. Le deuxième garçonnet devait chercher ses frères. Il se mit dans un coin près de la dépendance et, les mains sur les yeux, sans regarder, il resta honnêtement là pendant que les autres se cachaient. L'aîné grimpa avec des mouvements prestes et adroits dans un large traîneau placé sous l'auvent, tandis que le cadet courait drôlement autour du puits, ne sachant où aller. « Un !» cria l'aîné. « Deux !» Le petit, affolé, sauta sur la margelle, saisit la corde et mit les pieds dans le seau vide, qui disparut, et se heurta avec un bruit sourd contre la paroi du puits. Une seconde, je restai pétrifié, en voyant la roue bien graissée tourner en silence avec une rapidité vertigineuse. Mais je compris aussitôt ce qui allait advenir, et je bondis dans la cour voisine en criant « Il est tombé dans le puits !» Le deuxième garçon arriva sur le lieu du drame en même temps que moi et s'accrocha à la corde qui le souleva et lui brûla les mains. Je réussis à la saisir à mon tour, et l'aîné qui survint alors m'aida à remonter le seau. « Doucement, s'il te plaît » recommandait-il. Nous eûmes bientôt tiré dehors l'imprudent, qui était fort effrayé, lui aussi. Le sang coulait des doigts de sa main droite, sa joue était meurtrie, ses jambes mouillées jusqu'aux genoux. Quoique blême, presque bleu, tout frissonnant, les yeux écarquillés, il trouva la force de sourire et disait d'une voix traînante « Comme je suis tombé !»« Tu as perdu la tête, voilà tout !» déclara le second des frères en l'étreignant, et avec son mouchoir, il essuya le visage ensanglanté du cadet. L'aîné reprit, l'air rembruni. « Rentrons, il faudra tout de même dire ce qui s'est passé. »«
Vous serez fouetté ?»
m'informai-je. Il hocha la tête et me tendant la main.
« Comme tu as été vite là !»
Enchanté de cet éloge, je n'eus pas le temps de serrer sa main, qu'il s'adressait de nouveau à son frère.
« Dépêchons-nous de rentrer, il va prendre froid. Nous dirons qu'il est tombé, mais pas dans le puits. »
« Non, non, » acquiesça le petit en frémissant. « Disons que je suis tombé dans une flaque d'eau. »
Et ils partirent. Tout cela s'était passé si rapidement que, lorsque je jetai un coup d'œil sur la branche que je chevauchais avant de sauter dans la cour, elle se balançait encore et abandonnait au vent ses feuilles jaunies. Pendant une semaine, les garçonnets ne reparurent pas. Mais quand ils revinrent, ils étaient plus bruyants qu'auparavant. L'aîné m'aperçut sur mon arbre et m'appela gentiment.
« Viens vers nous !»
Nous nous installâmes sous l'auvent, dans un vieux traîneau, et tout en nous examinant les uns les autres, nous causâmes longtemps.
« Avez-vous été battu ? » demandai-je.
« Oui, » répondit l'aîné.
Il m'était difficile de croire que l'on fustigeait comme moi ces petits garçons. J'en fus vexé pour eux.
« Pourquoi attrapes-tu des oiseaux ? »
s'informa le cadet.
« Parce qu'ils chantent bien.
« Laisse-les donc voler à leur guise. C'est mieux. »«
C'est entendu, je n'en prendrai plus. »
« Mais avant, tu en attraperas un que tu me donneras. »
« Lequel préfères-tu ? »
« J'en veux un qui soit gai, de ceux qui acceptent d'être en cage. »
« Alors, c'est un serin que tu désires. »
« Le sale mangera, » zizéya le cadet, « et papa ne nous permettra pas de le garder. »
L'aîné confirma, « et il ne le permettra pas. »«
Vous avez une mère ?»«
Non, » dit l'aîné, mais son puinet le reprit.
« Si, seulement... « C'est une autre, ce n'est pas la nôtre. Tu comprends ? La nôtre est morte. »«
L'autre s'appelle belle-mère, » expliquai-je.
L'aîné secoua la tête.
« C'est vrai. »
Tous trois se mirent à réfléchir et devinrent tout tristes. D'après les récits que m'avait fait mon aïeul, je savais ce que c'est qu'une belle-mère, et je comprenais la mélancolie de mes compagnons. Serrés les uns contre les autres, ils se ressemblaient comme des poussins. Et me rappelant l'histoire de la belle-mère sorcière qui s'était emparée par ruse de la place de la vraie mère, je leur promis. « Votre vraie mère reviendra, vous verrez. »
L'aîné haussa les épaules. « Puisqu'elle est morte, cela ne peut pas arriver. »
« Cela ne pouvait pas arriver. Allons donc. Que de fois n'avais-je pas vu, dans les histoires de mon aïeul, les morts ressuscités, même ceux qui avaient été coupés en morceaux. Il suffisait de les asperger d'eau vive, car dans ces cas-là, la mort qui n'avait pas été ordonnée par Dieu, mais provenait des sorciers et de leurs maléfices, n'était pas réelle. Et je me mis à narrer avec ardeur certaines histoires de grand-mère. Au début, l'aîné souriait et disait doucement « Nous connaissons tout cela. » « Ce sont des contes. »
Ses compagnons écoutaient en silence. Le cadet avait les joues gonflées et les lèvres serrées. L'autre, le coude appuyé sur le genou, se penchait vers moi, un bras passé autour du cou de son frère. Le soir tombait, et les nuages rouges planaient au-dessus des toits, lorsque surgit près de nous le vieillard à moustache blanche.
« Qui est-ce ? »
demanda-t-il en me désignant du doigt. L'aîné se leva et d'un mouvement du menton indiqua la maison de grand-père.
« Il vient de là !»«
Qui est-ce qui t'a appelé ?»
Tous ensemble, les garçonnets se glissèrent hors du traîneau et se dirigèrent vers leur demeure, d'une allure qui me fit de nouveau penser à des canards obéissants. Le vieillard me prit à l'épaule, sans douceur, et me mena au portail. J'aurais voulu pleurer tant il me faisait peur. mais il marchait à si grandes enjambées qu'avant d'avoir eu le temps d'éclater en sanglots, je me trouvai dans la rue. Sur le seuil, l'homme farouche s'arrêta et, me menaçant du doigt, trancha d'une voix sévère « Je te défends de venir chez moi !» Je me fâchai. « Ce n'est pas chez toi que je vais, vieux diable !» Sa longue main me saisit de nouveau. Cette fois, il me conduisait jusque chez nous et ses paroles tombaient sur ma tête comme des coups de marteau. « Ton grand-père est-il à la maison ?» Pour mon malheur, grand-père était rentré. Quand le vieillard menaçant se trouva devant lui, mon aïeul leva la tête et, tout en fixant les yeux ternes du voisin, balbutia d'une voix précipitée « Sa mère est loin, je suis très occupé et personne ne le surveille. Pardonnez-lui, colonel !» Le colonel brailla de telle sorte que toute la maison l'entendit. Puis, raide comme un poteau, il pivota sur ses talons et se retira. Un moment après, j'étais rossé d'importance et j'allais cacher mes larmes sur la télègue de l'oncle Piotr dans la cour. « Eh bien, tu as encore écopé, mon petit Alexis » demanda-t-il en dételant son cheval. « Qu'as-tu fait pour être battu ?» Lorsque je lui eus raconté l'aventure, il s'emporta et siffla. « Pourquoi te lies-tu avec ces gens-là ? Ces petits nobles, vois-tu, sont de vrais serpents. Tu vois comme tu as été rossé à cause d'eux. Mais tu vas leur rendre l'appareil, sans te gêner, j'espère. » Il parla longtemps ainsi. Irrité par les coups que j'avais reçus, je l'écoutais d'abord avec sympathie. Mais son visage ridé tremblait d'une manière si déplaisante que je lui rappelais que les garçonnets avaient été fouettés eux aussi et qu'ils n'étaient pas plus coupables que moi. « Il ne faut pas les battre. Ce sont de braves enfants et tu ne dis que des bêtises. » Il me regarda, ahuri et furieux, et tout à coup se mit à crier « Descends du char !»« Tu es un imbécile !» ripostai-je à mon tour en sautant à bas de la télègue. Il se mit à ma poursuite, essayant en vain de m'attraper, et il courait en vociférant d'une voix bizarre « Moi, un imbécile ? Moi, je dis des bêtises ? Ah, tu vas voir !» Grand-mère apparut sur le perron de la cuisine. Je me précipitai dans ses jambes. Piotr se répandit en doléances. Il me rend la vie dure, le polisson. Je suis 5 fois plus vieux que lui et il m'injurie. Il ose m'appeler menteur et me traiter de toutes sortes de choses. Lorsqu'on disait des mensonges devant moi, je perdais la tête et l'étonnement me rendait stupide. C'est ce qui m'arriva alors. Mais grand-mère répliqua avec fermeté. C'est toi, Piotr, qui mens pour l'instant. Il ne t'a pas dit de vilaines injures. Grand-père, lui, aurait cru le charretier. À dater de ce jour, Piotr me déclara une guerre, silencieuse et acharnée. Il essayait de me pousser, comme par hasard, ou bien de m'atteindre avec les rênes de son attelage. Il lâchait mes oiseaux. Une fois, il les mit même aux prises avec le chat. À tout propos, il se plaignait de moi à grand-père, en grossissant les choses. Et cet homme m'apparaissait de plus en plus comme un gamin qui se serait déguisé en vieillard. De mon côté, je m'ingéniais à me venger. Je défaisais ses chaussures de tille, j'entaillais les liens des bandes de toile qui lui servaient de bas, et il se déchirait quand Piotr voulait les nouer. Un matin, je versai du poivre dans sa casquette, ce qui le fit éternuer pendant 1 heure entière. En général, je m'efforçais de ne pas demeurer en reste avec lui. Les dimanches, toute la journée, il me surveillait d'un œil vigilant. Et chaque fois qu'il me prenait en flagrant délit de désobéissance, à bavarder avec les petits nobles, il ne manquait pas d'aller immédiatement me dénoncer à grand-père. Mes relations avec les 3 garçonnets continuaient cependant et devenaient de plus en plus cordiales. Dans un étroit passage entre le mur de notre maison et la clôture des Ovsianikov avait poussé un orme, un tilleul et un gros massif de sureaux. Profitant de ce retrait abrité, j'avais percé dans la palissade une ouverture exiguë en demi-cercle. L'un après l'autre, ou deux par deux, les frères s'en approchaient et nous causions, accroupis ou agenouillés. L'un d'entre eux montait toujours la garde, afin que le colonel ne nous surprît pas. Ils me racontaient leur vie monotone, me questionnaient à propos des oiseaux que j'avais attrapés, mais jamais ne prononçaient un mot au sujet de leur père ou de leur belle-mère. La plupart du temps, ils me priaient tout simplement de leur raconter une histoire. Je répétais les légendes et les contes de fées de grand-mère, et si j'oubliais quelques détails, je leur demandais d'attendre un instant. Je courais alors en hâte à la cuisine, me renseigner auprès de mon aïeul, ce qui lui faisait toujours le plus vif plaisir. Je parlais aussi beaucoup de grand-mère à mes petits camarades. L'aîné, un jour, après avoir poussé un profond soupir, déclara « Les grand-mères sont probablement toutes très bonnes. Nous en avions aussi une que nous aimions beaucoup. » Il parlait souvent au passé, et d'une voix si mélancolique qu'on lui eût donné 100 ans et non pas 11. Je me rappelle qu'il avait des mains étroites et des doigts effilés. Toute sa personne était mince et fragile. Ses yeux très clairs, mais très doux, faisaient penser à la clarté des lampes éternelles qui brûlent à l'église. Ses frères, aussi sympathiques que lui, m'inspiraient le même sentiment de confiance illimitée. Je me sentais toujours prêt à leur faire plaisir. Mais c'était l'aîné, surtout, qui m'attirait. Absorbé par la conversation, je ne voyais presque jamais venir l'oncle Piotr, qui nous dispersait en clamant d'une voix traînante « Encore !» Ces accès de torpeur maussade devenaient de plus en plus fréquents. J'appris, rien qu'à sa façon de pousser le portail, s'il était bien ou mal tourné quand il rentrait après son travail. En général, il l'ouvrait sans se presser et elle grinçait avec lenteur. Mais quand il était de mauvaise humeur, les gonds lançaient un cri bref, comme un gémissement. Depuis longtemps, le muet, le neveu de Piotr, était parti à la campagne pour se marier. Le charretier vivait seul maintenant, et son appartement mal tenu était devenu une sorte de taudis, où stagnait une nauséabonde odeur de cuir pourri, de sueur et de tabac. En outre, il n'éteignait plus la lampe quand il se couchait, et cela déplaisait fort à grand-père. « Prends garde, Piotr, tu mettras le feu !»« Non, non, soyez tranquille, je place toujours la lampe dans un bol rempli d'eau !» répondait-il en regardant de côté. Maintenant, il ne jetait plus que des coups d'œil obliques sur les gens et les choses. Il avait également cessé de venir aux soirées de grand-mère, et ne m'offrait plus de confiture. Son visage s'était desséché, ce qui rendait ses rides plus profondes. Il marchait en trébuchant, les jambes traînantes, comme un malade. Un matin que nous étions en train, grand-père et moi, de déblayer la neige qui était tombée abondamment pendant la nuit, le loquet de la porte basse s'ouvrit avec un bruit insolite et sonore, et un agent de police pénétra dans la cour. Il ferma la porte en s'y adossant et, de son gros doigt, fit signe à grand-père d'approcher. Lorsque mon aïeul fut tout près de lui, l'autre pencha son visage au nez proéminent et, comme s'il eût martelé le front de grand-père, il lui confia quelque chose que je n'entendis pas. Cependant que mon aïeul donnait la réplique avec précipitation. « Oui, ici. Quand ?» Et soudain, il sursauta drôlement et s'exclama. « Seigneur, est-ce possible ?»« Ne criez pas !» ordonna l'agent de police d'un ton sévère. Grand-père promena un regard circulaire autour de lui et m'aperçut. « Serre les pelles et rentre à la maison !» Je me cachai dans un coin. Les deux hommes se rendirent au logis du charretier. L'agent avait enlevé le gant de sa main droite et il en frappait sa main gauche en expliquant. « Il a compris. Il a abandonné son cheval et a pris la fuite. » je courus à la cuisine pour raconter à grand-mère tout ce que j'avais vu et entendu. Je la trouvai pétrissant la pâte pour le pain et secouant sa tête enfarinée. Après m'avoir écoutée, elle conclut tranquillement. « Il aura sans doute commis un vol. Va t'amuser, mon enfant. » Lorsque je descendis dans la cour, grand-père était debout, tête nue, près de la porte basse, et se signait en regardant le ciel. Une de ses jambes tremblait, et il avait l'air très irrité. « Je t'ai dit de rentrer » cria-t-il en tapant du pied. Il me suivit. Dès qu'il fut dans la cuisine, il appela grand-mère. « Mère, viens ici !» Tous deux passèrent dans la pièce voisine, où ils chuchotèrent longtemps. Lorsque mon aïeul revint, je sentis nettement qu'il s'était passé quelque chose d'épouvantable. « Qu'est-ce qui t'a fait peur ?
Tais-toi ! Entends-tu ? »
répondit-elle tout bas. Pendant toute la journée, on se sentit mal à l'aise. Mes grands-parents échangeaient des regards inquiets tout en parlant bas. Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire, et leurs phrases brèves augmentaient encore mon anxiété. « Mère, allume les lampes partout devant les images saintes !» ordonna grand-père en tout sautant. On dîna sans appétit, et très vite, comme si on attendait quelqu'un. Mon aïeul gonflait les joues avec lassitude et grommelait « Le diable est plus fort que l'homme. On croyait qu'il était pieux, qu'il aimait l'église. Et voilà, voilà, hein ?» Grand-mère poussait un soupir. Cette journée d'hiver, couleur d'argent terne, s'achevait dans une langueur accablante. L'angoisse et les alarmes emplissaient la maison. Vers le soir, un autre agent de police arriva. Gros gaillard à cheveux roux qui s'installa sur le banc à la cuisine. Il somnolait, reniflait, et quand grand-mère demandait « Comment a-t-on su la chose ?» il répondait d'une voix grasse après un instant de silence. « Chez nous, on sait tout. Ne vous inquiétez pas de ça. » J'étais assis près de la fenêtre, chauffant dans ma bouche un vieux demi-copec pour essayer d'imprimer sur le givre de la vitre l'effigie de Saint-Georges combattant le dragon. Tout à coup, il y eut un brouhaha dans le couloir. La porte s'ouvrit toute grande et Petrovna parut en criant d'une voix assourdissante « Regardez donc ce qu'il y a derrière votre maison !» En apercevant le sergent de ville, elle voulut s'enfuir, mais celui-ci la retint par sa jupe en demandant « Attends, qui es-tu ? Que faut-il regarder ?» Petrovna trébucha sur le seuil et, tombant à genoux, se mit à balbutier, avalant ses mots et ses larmes. « Je m'en allais traire mes vaches, quand j'ai aperçu dans le jardin des Cachirines quelque chose comme une botte. » Ce fut au tour de grand-père de vociférer en tapant du pied. « Tu mens, vieille bête ! Tu n'as rien pu voir dans mon jardin ! La clôture est trop haute et il n'y a point de fente ! Tu mens ! Il n'y a rien dans mon jardin !»« Mon petit père !» gémit Petrovna, tendant une main vers lui, tandis que de l'autre elle se prenait la tête. « Vous l'avez deviné, c'est un mensonge que je viens de dire. En allant traire, j'ai remarqué près de votre clôture des traces de pas. À un endroit, la neige toute piétinée m'a intriguée. Alors, j'ai regardé par-dessus la clôture, et je l'ai vu. Qui ?» Ce cri dura terriblement longtemps. Il était tout à fait indéfinissable. Soudain, comme s'ils eussent perdu la tête, tous les assistants se précipitèrent hors de la cuisine en se poussant les uns les autres. On courut au jardin, et là, dans le bas-fond tapissé par la neige, on aperçut l'oncle Piotr, qui gisait, le dos appuyé à la poutre calcinée, la tête pendante sur la poitrine. Sous l'oreille droite, il avait une profonde entaille, rouge comme une bouche, d'où sortaient, en guise de dents, des petites choses violacées. Terrifié, je fermai à demi les yeux, et à travers mes cils, je vis, sur les genoux du charretier, le couteau que je connaissais bien, et que serraient encore les doigts noirs et recroquevillés de sa main droite. Quant à la gauche, écartée du tronc, Elle était cachée dans la neige qui avait fondu sous le cadavre. Et tout ce petit corps, profondément enfoncé dans ce duvet lumineux et douillé, semblait plus enfantin encore. À la droite de Piotr, un étrange dessin rouge qui figurait comme un oiseau se détachait sur la neige. À sa gauche, la couche blanche était immaculée. La tête penchée s'appuyait du menton sur la poitrine nue, et sous l'épaisse barbe annelée tout en désordre, on apercevait une grosse croix de cuivre entre des filets de sang figé. Le bruit des voix m'incommodait et me donnait le vertige. Petrovna beuglait sans s'arrêter. L'agent de police hurlait en envoyant Valéi je ne sais où. Grand-père, enfin, criait « Ne marchez pas sur les traces de pas !» Mais soudain, il fronça les sourcils et, regardant à terre, devant ses pieds, il dit tout haut et d'une voix autoritaire qui s'adressait à l'agent « Ce n'est pas la peine de discuter. Dieu seul peut juger cette affaire-là. Et toi, tu nous racontes toutes sortes de choses. Ah, vous !» Tout le monde se tut. Les regards se fixèrent sur le mort. On se mit à soupirer et chacun se signa. D'autres gens, sautant par-dessus la haie de Petrovna, arrivèrent dans le jardin. Ils tombaient en grommelant. Cependant, le calme régna jusqu'au moment où grand-père, se retournant, cria d'une voix désespérée « Mais vous cassez mes framboisiers! Faites donc attention, voisin !» Grand-mère me prit par la main et me ramena à la maison. Elle sanglotait. « Qu'a-t-il fait ? » demandai-je. Elle répondit « Tu n'as donc pas vu ?» Pendant toute la soirée et très tard dans la nuit, des gens étrangers s'attroupèrent et argumentèrent dans la cuisine et dans la pièce contiguë. Les agents de police donnaient des ordres, et un individu qui ressemblait à un diacre écrivait, après avoir demandé en croassant comme un corbeau « Quoi ? Quoi ?» À la cuisine, grand-mère offrait du thé à tout le monde, tandis qu'un homme moustachu, grêle et rond, racontait d'une voix éraillée. On ignore ses véritables noms et prénoms, on sait seulement qu'il était originaire d'Elatma. Le muet n'est pas muet du tout, c'est seulement son sobriquet. Il a tout avoué, d'ailleurs. Et le troisième aussi, car ils étaient trois. Depuis longtemps, leur principal métier consistait à dévaliser les églises. « Oh, Seigneur !» soupirait Petrovna, toute rouge et moite. Étendue dans la soupente, je regardais d'en haut l'assistance, et les gens me semblaient tout petits et terrifiants.